Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 2005 sous le titre Collapse, Effondrement est un essai de géographie historique, écologie et sciences sociales dans lequel Jared Diamond examine les conditions qui conduisent certaines sociétés à décliner, à disparaître ou à se réorganiser durablement. Son enquête compare des cas anciens comme les habitants de Rapa Nui, les Mayas, les Anasazi et les colonies vikings du Groenland avec des situations plus contemporaines en Amérique, en Océanie, en Chine ou dans les Caraïbes. Le livre ne présente pas le déclin comme une fatalité écologique automatique, il propose plutôt une grille de lecture fondée sur 5 ensembles de facteurs dégradation environnementale, changement climatique, relations avec des voisins hostiles, dépendance commerciale et choix collectifs. Diamond cherche ainsi à relier les traces archéologiques au dilemme moderne de gestion des ressources. Son objectif est moins de prédire une catastrophe que de rendre visibles les mécanismes par lesquels des décisions accumulées peuvent réduire ou préserver la capacité de survie, une société. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une méthode comparative qui refuse la cause unique de tout effondrement. La contribution centrale de Diamond consiste à rejeter les explications simples du déclin social. Une sécheresse, une déforestation, une invasion ou une crise commerciale ne suffisent généralement pas, à elles seules, à expliquer pourquoi une communauté cesse de maintenir ses institutions et sa population. Il organise son analyse autour de 5 facteurs susceptibles de se combiner les dommages causés au milieu, les variations climatiques, les conflits ou pressions extérieures, la perte de partenaires économiques indispensables et les réponses politiques ou culturelles internes. Cette dernière dimension donne son sens au sous-titre du livre « Les sociétés ne choisissent pas nécessairement leur disparition de façon consciente, mais leurs priorités, leurs habitudes et leurs institutions influencent leur capacité à reconnaître un danger et à agir à temps. Le cadre permet aussi de comprendre pourquoi deux sociétés placées devant des contraintes comparables peuvent connaître des trajectoires opposées. Diamond rapproche donc les cas sans prétendre qu'ils sont identiques. La comparaison sert à identifier des mécanismes récurrents, notamment la dépendance envers une ressource fragile ou le retard dans la correction des pratiques destructrices. Cette approche multifactorielle rend le livre utile pour penser les vulnérabilités contemporaines, tout en imposant une prudence. Aucun modèle historique ne peut être transposé mécaniquement à une société moderne complexe. Deuxièmement, les dégradations écologiques comme enchaînement, plutôt que comme problème isolé, Effondrement détaille les formes de pression environnementale qui peuvent miner durablement une société disparition ou transformation des habitats. Déforestation, érosion et salinisation des sols, difficultés de gestion de eau, surexploitation de la chasse et de la pêche, espèces introduites, croissance démographique et hausse de impact par habitant. Diamond ajoute des enjeux devenus particulièrement visibles dans le monde contemporain, tels que l'expollution toxique, les contraintes énergétiques, le changement climatique induit par les activités humaines et appropriation croissante de la production photosynthétique terrestre. La force de cette liste ne réside pas seulement dans son ampleur. Elle montre surtout que ces processus se renforcent mutuellement. La disparition du couvert forestier peut accélérer l'érosion, diminuer les rendements, compliquer l'approvisionnement en eau et pousser une population à exploiter davantage les espaces restants. Une société peut alors conserver une apparence de stabilité pendant longtemps tout en consommant le capital écologique qui rend sa subsistance possible. Les études sur les îles du Pacifique et sur Rapa Nui illustrent la sensibilité particulière des territoires isolés, où les possibilités de remplacement sont limitées. Diamond ne soutient pas que chaque changement environnemental mène au désastre. Son argument est que la résilience dépend de la vitesse des prélèvements, de la capacité de régénération des milieux et de l'aptitude collective à modifier les usages avant que les seuils critiques soient franchis. Troisièmement, le Groenland viking et les limites culturelles de adaptation. Le cas des colonies vikings du Groenland occupe une place importante parce qu'il évite de réduire une disparition à la seule rigueur du climat. Les Norrois vivaient dans un environnement difficile, où le refroidissement progressif, la fragilité des sols et les contraintes de navigation compliquaient agriculture, élevage et échange avec Europe. Diamond examine également les relations avec les Inuits, mieux adaptés à certaines conditions arctiques, ainsi que la dépendance des colons envers le commerce extérieur. Son analyse insiste sur la persistance de pratiques et de préférences héritées du monde nordique. Une communauté peut disposer de connaissances utiles autour de elle sans les intégrer. Si ces solutions paraissent incompatibles avec son identité, son statut ou ses normes sociales. Cette idée ne signifie pas que les Vikings auraient librement choisi une issue fatale, ni que les Inuits détenaient une réponse universelle. Elle met en évidence le coût des rigidités institutionnelles lorsque les conditions matérielles changent rapidement. Le chapitre montre aussi que les élites et les structures de pouvoir peuvent influencer la distribution des ressources et la capacité de réforme. Pour Diamond, adaptation ne veut donc pas seulement dire innovation technique, elle suppose de reconnaître que certaines manières de produire, de manger, de commercer ou de se distinguer socialement ne sont plus viables. Le Groenland devient ainsi un exemple des interactions entre écologie, climat, isolement économique et valeurs collectives. Quatrièmement, des sociétés qui ont limité les dégâts avant le point de rupture, le livre ne se limite pas aux disparitions. Diamond étudie des communautés qui ont maintenu leur continuité malgré de fortes contraintes, notamment Tikopia, certaines sociétés de Nouvelle-Guinée et le Japon de l'époque Tokugawa. Ces contre-exemples sont essentiels car ils déplacent la question. Il ne suffit pas de savoir pourquoi une société échoue, il faut comprendre comment elle réduit les risques. Dans ces cas, la préservation relative des ressources repose sur des règles sociales, des ajustements agricoles, une limitation de certains prélèvements et une capacité à accepter des contraintes collectives. Le Japon de l'époque Tokugawa est particulièrement mobilisé pour montrer comment une crise forestière peut susciter des changements dans la gestion des bois et dans l'usage du territoire. Diamond ne décrit pas ses expériences comme des modèles parfaits ni comme des systèmes exemples de conflits. Leur intérêt tient à la reconnaissance progressive des limites matérielles et à la mise en place de réponses à une échelle compatible avec le problème. Cette partie corrige une lecture fataliste du titre. Les dégâts écologiques ne produisent pas automatiquement une disparition, car les règles, les incitations et les institutions peuvent orienter les comportements vers la conservation. Elle souligne cependant une difficulté majeure pour les sociétés actuelles. Les bénéfices de l'exploitation sont souvent immédiats, tandis que les gains de la protection apparaissent plus tardivement et profitent à un ensemble plus large que les décideurs initiaux. En dernier lieu, la question moderne des décisions collectives face aux risques mondialisés. Dans sa dernière partie, Diamond relie les enseignements historiques à des enjeux contemporains, en abordant notamment le Montana, la Chine, Australie, Haïti et la République dominicaine. Il ne les traite pas comme des copies des sociétés anciennes. Les États modernes disposent de technologies, de marchés mondiaux, de savoirs scientifiques et de moyens administratifs qui changent profondément la situation. Mais cette interdépendance crée aussi de nouvelles vulnérabilités. Une région peut déplacer les coûts écologiques de sa consommation vers une autre, dépendre de ressources importées ou subir des effets climatiques produits à distance. Le livre insiste donc sur les choix des entreprises, des gouvernements et des consommateurs, sans prétendre que la responsabilité est répartie de manière uniforme. Les décisions à court terme peuvent sembler rationnelles pour un acteur isolé, tout en aggravant un risque collectif à long terme. Diamond défend une forme de prudence. Informer les sociétés dispose désormais de données et de précédents historiques qui permettent de détecter des trajectoires dangereuses plus tôt que par le passé. Cette connaissance ne garantit aucune réforme, car les intérêts économiques et les inégalités de pouvoir comptent fortement. Elle rend toutefois injustifiable l'ignorance volontaire des limites. La portée du livre est ainsi politique autant que écologique. Survivre exige de coordonner les réponses à des problèmes dont les causes et les conséquences franchissent les frontières. En conclusion, Effondrement intéressera particulièrement les lecteurs de sciences humaines, écologie, histoire environnementale et politique publique qui cherchent une synthèse accessible sur les liens entre ressources, institutions et stabilité sociale. Il convient aussi aux étudiants, aux décideurs et aux citoyens désireux de disposer de repères historiques pour examiner les risques actuels sans les réduire à une seule cause. Le bénéfice intellectuel principal du livre est sa grille des 5 facteurs, qui oblige à articuler environnement, climat, commerce, relations extérieures et décisions collectives. Elle aide à éviter 2 erreurs opposées, croire que la technologie résoudra nécessairement toute contrainte matérielle, ou considérer que la dégradation écologique condamne inévitablement toute société. Comparé à de nombreux essais écologiques centrés sur un indicateur ou une crise précise, le livre se distingue par son ampleur comparative et par le dialogue entre archéologie, géographie et analyse des institutions. Les études de sociétés disparues sont constamment mises en regard de cas de survie et de situations contemporaines. Cette ambition explique aussi certaines limites souvent relevées. Un cadre global peut simplifier la diversité des causes sociales, politiques et culturelles propres à chaque cas. Il faut donc lire Diamond comme un organisateur de questions, plutôt que comme une explication définitive de chaque effondrement. Sa valeur durable réside dans cette invitation méthodique à observer les interdépendances, les délais de réaction et les choix qui rendent une communauté plus ou moins capable de corriger sa trajectoire. Si vous souhaitez soutenir Jared Diamond, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.